Voici le grand face-à-face Ali Badou.
Bonjour à vous qui nous rejoignez, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Au sommaire de l'émission jusqu'à 14h, comme tous les dimanches, rendez-vous avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Et puis notre invité dans une quinzaine de minutes, c'est un grand nom de la pensée politique française. Plusieurs de ses livres sont devenus des classiques. Et dans son dernier essai, il s'attaque à l'extension des droits de l'homme dans nos sociétés. Des droits qui nous auraient fait oublier jusqu'à l'idée même du bien commun. Thèse qu'on mettra à l'épreuve de situations très concrètes comme celle du sauvetage de plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants par le navire l'Aquarius en Méditerranée. Rendez-vous tout à l'heure avec le philosophe Pierre Manon.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. On va commencer ce retour sur la semaine avec les mots du président. Élément de contexte, c'était mercredi dernier. Emmanuel Macron s'exprimait devant le congrès de la Mutualité française à Montpellier. Il critiquait le fétichisme du modèle social français. Il appelait à réinventer l'État-providence. Il plaidait pour une meilleure efficacité des aides sociales. Mais les mots qu'on a retenus et ceux qui ont fait polémique, ce sont ceux qu'on a découvert la veille au soir, mardi, dans une vidéo publiée par l'Élysée et qui est aussitôt devenue virale.
On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté.
Natacha, comment avez-vous reçu cette phrase, cette analyse ?
Cette analyse, oui, analyse profonde, liée au fond et la forme. Bon, la forme, je pense, a été largement commentée. C'est une opération de communication dans laquelle Emmanuel Macron, comme à son habitude, apparaît en briseur de tabous. Alors, curieusement, ce sont toujours les mêmes tabous qu'il brise, hein, c'est-à-dire qu'il tape sur ce qui est une politique sociale, de gauche, contre les syndicats, etc. C'est toujours la même mécanique. On ne l'entend jamais briser les tabous contre les multinationales, l'évasion fiscale, la rémunération des grands patrons. Ça, c'est curieux, ça ne lui vient pas à l'esprit. Donc ça, c'est la forme. Après, sur le fond. Sur le fond, ce qu'il explique est assez conforme à son idéologie, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une idée de responsabilité individuelle qui doit permettre à chacun de s'émanciper. Tout ce qu'il oublie, c'est la définition de ce qu'est l'émancipation et la définition de ce qu'est l'aliénation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui provoque l'aliénation qui, aujourd'hui, fait que des gens sont coincés dans la pauvreté ? C'est, par exemple, le fait que aujourd'hui, nous sommes dans une société où certains sont mis dans des conditions où ils ne peuvent pas retrouver un emploi parce qu'il y a des désertifications de territoire, parce qu'il y a une tertiarisation de la société qui a détruit des emplois qui étaient ceux qui correspondaient aux compétences d'ouvriers spécialisés. Et que cela, pourquoi on a détruit ces emplois-là ? Parce qu'on a ouvert des frontières et mis en concurrence ces ouvriers avec des gens qui n'ont pas de minima sociaux, qui n'ont pas de droits sociaux, qui n'ont pas de normes environnementales. Donc la politique que lui-même accepte crée de l'aliénation et ensuite il vient se plaindre et expliquer que bon, ils ont qu'à se bouger un petit peu.
Raphaël ?
Non, mais derrière tout ça, il y a quand même un présupposé qui est assez étrange parce qu'il ne résiste pas à l'analyse des faits. On dit le modèle social français, donc le modèle de solidarité sociale français, qui n'est absolument pas parfait et qui mérite totalement d'être réformé, produit de la misère parce qu'il déresponsabilise les individus. Il faudrait un modèle plus libéral fondé sur la responsabilisation des individus. C'est ce type de modèle qui ont été adoptés dans certains pays voisins de la France et il faudrait s'intéresser au taux de misère et au taux de pauvreté, puisque tout ça est fondé sur l'argument qu'il y a 9 millions de pauvres en France, c'est-à-dire 13% en gros, eh bien en Allemagne ou en Angleterre. Est-ce qu'il y a plus ou moins de pauvres ? Et la vérité, c'est qu'en Angleterre, il y a beaucoup plus de pauvres qu'en France.
Mais l'argument du président de la République, quand il dit en France, les pauvres restent pauvres, et malgré les aides sociales...
En Angleterre, les pauvres restent pauvres. Donc il y a là une question qui dépasse la question des modèles sociaux, et simplement la décision idéologique d'Emmanuel Macron est de tout imputer au modèle de solidarité sociale français. Or, c'est pas étayé par des faits. Encore une fois, ce n'est pas vrai. En France, le modèle de solidarité sociale ne produit pas plus de pauvreté ou d'assignation à résidence que le modèle anglais, par exemple.
En revanche, on pourrait se poser la question. Le problème, la pauvreté vient d'où ? Et de même d'ailleurs que les déficits des comptes publics, du chômage de masse. Donc la question est de savoir comment on résout cela. Mais pour ça, il faut en effet dépasser un petit peu l'obsession du modèle social.
Mais la simple question du chômage n'est pas suffisante. Parce
qu'en
Angleterre et en Allemagne, il y a un taux de chômage plus bas et un taux de pauvreté plus haut.
Voilà, c'est bien là où j'allais venir. C'est que si la réponse au problème du chômage de masse, c'est de dire qu'on va autoriser les jobs zéro heure comme en Angleterre, c'est-à-dire des contrats où il n'y a pas une heure qui est garantie par mois et donc c'est le travailleur qui doit lui-même quêter et attendre près de son téléphone la journée entière pour savoir s'il aura la possibilité de travailler pendant une heure dans la journée ou dans la semaine, je pense que ce ne sera pas tout à fait un progrès. Et donc, ça nécessite, comme je le disais, de réfléchir à une échelle plus vaste sur la façon dont on a organiser le chômage et la production sur l'ensemble de la planète à travers la globalisation.
Mais est-ce que les aides sociales en France sont faites pour résoudre le problème de la pauvreté ?
Alors, tout le problème du discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il parle des minima sociaux. Mmh. Il ne parle pas, par exemple, de la protection chômage. Il parle des minima sociaux, c'est-à-dire quoi ? Le minimum vieillesse, le minimum handicap ? Mais en quoi est-ce censé être efficace. Ce n'est pas une aide efficace, c'est une aide qui empêche des gens de sombrer dans la misère. C'est pas fait pour les en sortir.
C'est un matelas social. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand le système ne fonctionne pas, quand l'économie ne produit pas assez d'emplois, quand des gens sont confrontés à l'inégalité exponentielle de la société telle qu'on la connaît, eh bien, les aides sociales permettent de ne pas sombrer dans l'immense misère. Et c'est ça ce qui est visé par ses propos. Et donc, il y a un problème. Évidemment qu'il y a une question à poser, parce que évidemment que l'assignation à résidence est insupportable. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'à chaque fois qu'on pose cette question, c'est toujours pour aller dans un sens de moins-disance envers la solidarité sociale. Et jamais pour dire, ok, refondons. Mais l'allocation unique, par exemple, qui est discutée, pourquoi ne pas alors clairement poser la question d'un revenu de base, mais qui soit un revenu d'existence décent ? Pas simplement la fusion des minima sociaux existants.
Le seul point sur lequel on peut faire crédit à Emmanuel Macron, c'est qu'à un moment donné dans son discours, il évoque la question de l'éducation, qui en effet est centrale. Parce que si on veut vraiment s'attaquer à cette aliénation et à l'assignation à résidence sociale, une des solutions est aussi de faire en sorte que l'école retrouve ce qu'elle n'a jamais eu parfaitement, mais qu'elle avait un peu plus qu'aujourd'hui, à savoir la capacité à sauver des gens et à produire un ascenseur social. Ça n'a jamais été formidable, mais nous sommes dans une phase.
On peut aussi
lui
reconnaître un deuxième point, c'est que il a annoncé des mesures concrètes qui, certes, ne sont pas une révolution du système social, mais des mesures concrètes qui sont bénéfique.
Oui, enfin, le zéro reste à charge, on l'attendait, on se demandait quand ça allait arriver, c'était une promesse de campagne.
En tout cas, c'est lui qui l'a annoncé, il a eu raison de le faire, et d'ailleurs, moi, ce qui m'étonne, c'est que vu qu'il annonçait enfin une mesure sociale qui est réellement peut changer la vie des gens qui en bénéficieront, eh bien, auparavant, il est obligé de glisser cette vidéo pour dire aux gens « Attention, je ne deviens pas socialiste quand même ».
Le grand face-à-face continue avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann.
France Inter, Natacha Polony. Raphaël Glucksmann, le duel.
Ils n'ont ni Dieu ni maître, à part maître Canter. Je suis l'arbre de leur laïcité avant qu'on le mette en terre. Marianne est une fémène, tatouée for God sur les mamelles. Où était-elle dans l'affaire de la crèche, séquestrée chez Madame Fourest?
Autre polémique cette semaine, d'abord lancée par des membres de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, et puis la question a fini par s'imposer dans le débat public. Le rappeur Medine doit-il pouvoir se produire en concert au Bataclan à l'automne prochain ? La liste est longue de ce que certains lui reprochent, le titre d'un album de 2005, Jihad, des paroles de chansons, la fréquentation de Tariq Ramadan, et je pourrais continuer longtemps, des responsables du mouvement national, des républicains, de la République en marche et du Parti socialiste ont dit leur indignation. Écoutez ce que leur répondait le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée nationale.
Il se trouve que ceux qui faisaient vivre le Bataclan en 2015, ceux qui aujourd'hui le font vivre et l'ont remonté, ont choisi librement la programmation que vous critiquez. Je dis donc qu'en la matière, la loi est claire. Incitation à la haine raciale ou trouble manifeste à l'ordre public. Voilà les deux seuls fondements qui pourrait justifier une mesure. Voilà les deux seuls fondements qui pourraient justifier une mesure. Nous respecterons donc scrupuleusement et la liberté d'expression et la loi.
Édouard Philippe pendant la séance de questions au gouvernement. Natacha, vous vouliez revenir sur cette affaire. Est-ce que vous seriez choqué que Medine se produise au Bataclan ?
Alors, distinguons bien les choses. Je trouve ça choquant et pour autant, je pense qu'il ne faut surtout pas l'interdire. Mais je trouve ça choquant, comme à mon avis beaucoup de gens, et je me moque de savoir qui a remarqué en premier cette programmation que je trouve d'un mauvais goût rare. C'est-à-dire que l'idée que ça viendrait forcément de ce qu'on appelle la fachosphère, entité non définie, ce qui invaliderait le débat, me semble problématique parce que ça ne nous permet pas de réfléchir réellement à tout ce qui nous lie. C'est-à-dire qu'il y a une liberté d'expression nécessaire. En revanche, je récuse l'idée des défenseurs de Médine que tout cela n'aurait aucune importance, que ce ne serait pas grave, car ce garçon, et on le sait, il est revenu sur les propos de 2005, de 2015, etc. Il s'est amendé. Mais quand on écoute ces textes, ce n'est pas anodin, sa présence au Bataclan, et il y a des symboles qui sont malsains.
Mais pour ce autant, que c'est fait. Édouard et le Philippe, à savoir oui, que ce sont les programmateurs du Bataclan,
mais bien sûr,
Bataclan
mais
qui font revivre ce
lieu,
qui
ont décidé de
l'accueillir. La phrase d'Édouard Philippe est parfaitement juste. Du point de vue légal, on vit dans un état de droit. Édouard Philippe, en tant que Premier ministre, n'a pas son mot à dire. Il est obligé de répondre à une polémique, mais il n'a pas son mot à dire sur la programmation d'une salle privée tant qu'il n'y a pas une loi qui est violée. Et donc, le droit est hyper clair là-dessus. Après, se pose la question, moi, ce n'est pas une polémique qui me fascine, hein, mais se pose la question de la décence. Effectivement, en écoutant...
La décence ?
Ouais, de la décence. Il y a une question de décence qui se pose. C'est-à-dire que les paroles de Medine, en les écoutant, moi, elles me choquent. Voilà, elles me choquent et je ne comprends pas pourquoi vouloir a priori absolument les chanter dans le lieu même du martyr de ces gens. Et quand on me dit que le Bataclan est une salle de concert et que c'est comme ça que ça doit rester, c'est pas vrai. C'est pas juste une salle de concert, le Bataclan. Il se trouve que c'est un lieu éminemment symbolique, politique, éthique, désormais, et que ça peut choqué à juste titre.
Natacha.
Et derrière cela, il y a un problème beaucoup plus vaste qui est celui de notre capacité à affronter les différences de vision de la société, les différences de culture. Quand on écoute les textes de Médine, quels qu'ils soient, hein, il y en a qui parlent de la guerre d'Algérie, il y en a qui parlent de, bon, évidemment des banlieues, etc. On entend en permanence cette idée qu'il y aurait eux contre nous. C'est-à-dire eux l'Occident, eux les Blancs, eux ceux qui ont colonisé. Et on est en permanence dans cette rhétorique post-coloniale qui détruit le lien social au lieu de le construire. Alors il a parfaitement le droit, et très bien. Moi ce qui m'intéresse...
Et lui-même
c'est...
dit qu'avoir choisi comme titre pour un album de 2005, Jihad, c'est quelque chose qu'il ne referait
non,
pas
non,
aujourd'hui.
Non, bien sûr, c'est ce que je disais, il est revenu sur tout cela, bien sûr. Il a évolué, mais pour autant, quand on écoute ses textes actuels, il y a une vision de la société... qui est parfaitement légitime à exprimer, mais qui nous raconte qu'une partie de la jeunesse française est en train de faire sécession.
Après,
et je pense que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. La question est, Médine a un public et les salles au Bataclan, Bataclan est complet.
D'accord, ouais, je m'exprime juste sur le Bataclan, parce que le Bataclan me concerne. Ensuite, qu'un rappeur ait une vision quelconque et qu'il y en ait d'autres qui aient une vision opposée, honnêtement, je pense qu'en France, moi, je réponds à cette question juste parce que le Bataclan est en jeu. Sinon, le reste des chanteurs qui ont une vision conflictuelle de la société. Natacha, il y en a toujours eu. C'est une grande tradition. Et aujourd'hui, je pense qu'on, de par les attentats terroristes, on est extrêmement stressé. Mais simplement, des chanteurs provocateurs en France, c'est une immense tradition française. Simplement,
est-ce seulement de la provocation ? Enfin, vous voyez, c'est cette idée. C'est très facile le mot provocation.
Non, mais d'accord. Mais enfin, on ne va pas parler des heures du chanteur Medine qui, s'il ne se produisait pas au Bataclan, nous intéresserait fort peu.
Ce chapitre,
non, c'est intéressant.
Et
puisqu'il a un public
n'est
nombreux.
Pas écrite et on ne sait pas donc si il montera sur la scène du Bataclan.
En tout cas,
mois
rien légalement lui interdire.
Jusqu'ici, le grand face-à-face de France Inter continue avec le débat.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
L'histoire a duré toute la semaine et elle continue de diviser et la France et l'Europe, celle de ces 629 migrants sauvés par l'Aquarius en Méditerranée, des États qui se rejettent la responsabilité, un navire longtemps resté coincé au large avant de trouver un port pour accoster. Au-delà des postures, une situation qui soulève des questions de fond et notamment celle-ci, le devoir de secourir inclut-il le devoir d'accueillir ? Un invité aujourd'hui, c'est une figure majeure du paysage intellectuel français, philosophe, historien, plusieurs de ses livres sont devenus des références. Bonjour Pierre Manant.
Bonjour.
Et bienvenue, vous publiez La loi naturelle et les droits de l'homme aux presses universitaires de France. C'est un essai important et nous tenions à en débattre avec vous. Avant de vous interroger sur la thèse que vous défendez dans ce livre, partons de cette situation très concrète de l'actualité que nous vivons. Que dit pour vous l'affaire de l'Aquarius ?
Je crois que vous avez très bien posé la question en vous demandant si le devoir de sauver, en quelque sorte, incluait un devoir d'accueillir. Et encore faudrait-il distinguer dans le devoir d'accueillir entre le devoir de donner accès à un territoire et le devoir de laisser ou faire devenir citoyen celui que l'on accueille. Donc il y a tout un complexe de questions qui, à coup sûr, sont simplifiées dans le débat public.
C'est la question des droits de l'homme qui est posée, selon vous, dans cette histoire. La question de l'universalité des droits de l'homme et du respect absolu de ces principes face à une situation d'urgence.
Beaucoup de questions sont posées par ce drame. Questions portant sur les droits de l'homme, la manière dont on les applique, la manière dont on les comprend, sur les nations européennes, la manière dont elles s'organisent, les références auxquelles elles obéissent, les perspectives qu'elles se donnent. Donc, si à partir de ce drame, nous déplions toutes les questions qu'il inclut, nous traiterons à peu près toutes les questions de philosophie politique et morale.
Allons-y alors, Raphaël.
Non, la première question que ce drame pose, en tout cas la première démonstration qui est faite devant nos yeux, c'est celle de l'hypocrisie, pour moi, absolue de la position française. Parce que d'un côté, on s'attaque violemment à la position du gouvernement italien, qui est de ne pas accueillir ce bateau. Et de l'autre, on se refuse absolument à l'accueillir, c'est-à-dire qu'on empêche même les Corses de le faire. Et du coup, on applique en réalité la même politique que le gouvernement italien. Et donc, il y a là une forme d'hypocrisie absolue. Ensuite, sur la question de l'accueil, là, on est au-delà, en fait, de l'accueil ou non dans la communauté citoyenne. C'est-à-dire qu'on refuse d'accueillir sur le territoire pour ensuite, peut-être, opérer un choix, qui est le droit des nations que vous soulignez dans vos ouvrages. C'est-à-dire qu'on manque au droit le plus élémentaire, qui est celui d'autoriser la personne à au moins prétendre être jugée selon son destin et ensuite acceptée ou pas par une nation d'accueil. On la refuse a priori. Et donc effectivement, pour moi, c'est une crise de la question de l'hospitalité dans les nations européennes et de la fidélité à leurs propres principes.
Pierre Manant.
Écoutez, hypocrisie, bon, il est certain que la démarche du gouvernement français n'a pas été particulièrement limpide. Bon, en même temps, ces termes d'hypocrisie, comment dire, il ne s'agit pas de défendre la position du gouvernement français, qui précisément est si peu clair et si mal défendu par lui-même. Mais pourquoi n'a-t-il pas accueilli ? Parce que, tout simplement, une fois qu'ils sont accueillis, on ne sait plus comment procéder. Si vous jugez sur ce drame tel qu'il se développe sous nos yeux, effectivement, la conduite du gouvernement français est très choquante. Si l'on prend en perspective, disons, des années et des années ou des décennies de politique face aux migrations, et les perplexités et les contradictions dans lesquelles elles nous jettent, je dirais qu'on devient moins sévère pour cette hypocrisie.
Disons qu'il me semble que...
Raphaël.
Pour ma part, je reprendrai également ce terme d'hypocrisie parce que je pense que le gouvernement français a fait le contraire de ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il eût fallu, me semble-t-il, justement accueillir pour venir en aide à des gens qui en avaient besoin et ensuite proclamer le droit d'un pays à décider qui il accueille sur son territoire. Mais revenons-en dans votre livre. Ce qui est très intéressant, c'est que vous notez cette contradiction absolue, justement, de cette pensée de cette domination des droits de l'homme dont on voit qu'elle aboutit à la situation actuelle. Pourquoi ? Parce que au nom de ces droits de l'homme, nous nous interdisons en Europe de défendre ce qui relève d'une culture qui pourtant est celle qui a produit les droits de l'homme. On est dans une aporie totale et la peur des populations qui explique les choix des différents ou les non-choix de nos différents gouvernants, la peur des populations vis-à-vis de l'immigration est en fait liée à cette question-là, la question du multiculturalisme et de l'incapacité à perpétuer une certaine vision des rapports sociaux.
Pierre Manon.
Nous ne savons plus comment exercer et même comment formuler les droits des nations, d'une certaine façon. Les droits d'un gouvernement à régler les conditions élémentaires de l'accès, par exemple, à la citoyenneté. Et d'autre part, nous valorisons, nous absolutisons les droits individuels. Et donc, les gouvernements qui ont face à eux l'objection de droits individuels et à leur disposition un droit national, un droit politique, un droit gouvernemental dont eux-mêmes doutent et qu'ils sont incapables de présenter plausiblement et raisonnablement à leurs citoyens, ils se réfugient en effet dans cette hypocrisie ou dans cette abstention en effet choquante que nous avons vu tout récemment. Mais voyez, quand un gouvernement essaie de distinguer rigoureusement entre devoir de sauver et droit d'accueillir, avec quelle rapidité ses adversaires ou ses critiques, en quelque sorte, confondent les deux et l'engagent
parce qu'ils sont peut-être liés
à passer très.
Et on peut vous dire aussi, Pierre Manon, que des principes sont absolus ou ce ne sont pas des principes.
Vous avez parfaitement raison que on passe peut-être de l'un à l'autre assez rapidement ou assez facilement, mais si l'on passe de l'un à l'autre rapidement et facilement, alors les gouvernements perdent toute capacité d'exercer leurs prérogatives.
Raphaël.
Non mais. En fait, la question d'immigration est intéressante parce que, pour moi, elle remet un peu en cause la théorie selon laquelle la vision dominante aujourd'hui serait celle des droits de l'homme. Parce que quand on voit la manière dont on perçoit les arrivées de migrants, par exemple en Italie, il faut et donc on l'aperçoit comme une invasion migratoire, il faut rappeler des chiffres. C'est-à-dire qu'il y a, depuis janvier, donc en 6 mois cette année, 13 706 migrants qui ont débarqué par la mer en Italie. 13 706. Et c'est vécu comme une forme d'invasion migratoire. Donc ça veut dire, quand même, que la vision universaliste des droits de l'homme n'est pas si dominante. Et ce que je partage dans votre critique, pourquoi elle est perçue de manière négative, cette vision des droits de l'homme, c'est effectivement qu'on a tellement centré sur l'individu qu'en gros, il n'y a plus une perspective collective possible qui permette ensuite d'intégrer les populations qui arrivent.
Oui, mais s'agissant du terme d'invasion, vous prenez une période déterminée en un lieu déterminé, mais si l'on prend la perspective sur les 10, 20, 30 dernières années, en effet, il n'est pas absurde pour les populations européennes de penser qu'elles sont face à un mouvement migratoire de grande ampleur. Et encore plus quand on leur dit, quand les gens compétents leur disent, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous n'y arriverez pas, mettez les frontières où vous voulez, ce sont des centaines de millions d'Africains, par exemple, qui vont se mettre en marche bientôt. Vous savez bien cette argumentation. Donc,
des dizaines de millions d'Européens eux-mêmes ont pu quitter leur nation pour aller s'installer ailleurs.
Mais dans ce cas, l'argument du petit nombre n'a aucune validité, puisque d'abord, il ne répond pas à ce qui s'est passé dans les 30 dernières années où les mouvements ont été assez considérables, et ça ne répond pas à ce que il nous est annoncé par les personnes compétentes de ce qui doit advenir. Donc, il est très injuste. Il est très injuste de dire aux citoyens français ou autres, vous employez des termes ridicules. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce sont des petits nombres qui sont concernés. Non, ce n'est pas vrai. On peut penser ce qu'on veut de ces changements, mais ce ne sont pas des petits nombres qui sont concernés. Ce sont des nombres qui contribuent à changer considérablement la vie européenne.
J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la question de la transmission culturelle. Dans le sens où ce que vous montrez dans votre livre, c'est que le fait de centrer sur les droits de l'homme, c'est-à-dire sur une vision éminemment individuelle des rapports sociaux, fragilise les institutions qui sont les seules à même de construire ce qui est peut-être commun, une culture commune. Or, le message que l'on envoie aux populations européennes...
Exemple concret.
Oui, j'y viens. Le message qu'on envoie aux populations européennes, c'est de leur dire, d'abord, vous ne pourrez rien contre les flux migratoires, mais en plus, une fois que vous avez chez vous des personnes qui arrivent d'autres cultures, eh bien, vous ne pourrez pas leur transmettre la culture du pays d'accueil. C'est là le paradoxe, c'est que les migrations ne peuvent être acceptées que si, justement, les institutions permettent d'intégrer, c'est-à-dire de transmettre une culture commune qui va faire en sorte que chacun se fonde dans des valeurs partagées.
Ah. Raphaël, allez-y, et puis Pierre Manon.
Non seulement une culture commune, mais un projet commun. C'est pas simplement un héritage qu'on transmet, c'est aussi la capacité à formuler un horizon collectif dans lequel les gens peuvent s'intégrer.
Nous sommes des passeurs, c'est avant et après.
Mais ce que je remarque, c'est j'insiste, je suis désolé, au pic des mouvements migratoires de ces 10 dernières années, au pic, c'est-à-dire en 2015, l'année où il y a eu le plus de gens qui sont arrivés d'en dehors de l'Europe sur la terre européenne, on parlait de 1 million de personnes sur un continent de 577 millions, je pense, ou quelque chose comme ça, d'habitants.
C'est
le fait que ce soit perçu comme une invasion montre qu'il y a quand même une crise. Alors je suis d'accord, il y a plein de facteurs qui expliquent cette crise des droits de l'homme, mais je ne crois pas qu'elle soit extrêmement dominante aujourd'hui en Europe, cette vision qui viserait à critiquer tout effort d'une nation de décider si elle accepte ou pas, puisque finalement c'est la vision dominante.
Pierre Manon.
Qu'est-ce qui est la vision dominante?
Les nations décident de ne pas accepter.
Les nations ne savent pas quoi faire. On ne peut pas dire qu'elles décident de ne pas accepter. Elles ne savent pas quoi faire. Elles sont perplexes. Elles ne savent pas justifier leur action encore moins leur inaction. Donc, nous sommes devant une...
Les Italiens, par exemple, ne sont pas perplexes. Le gouvernement français
non plus.
Mais
justement, c'est une réaction, ça. C'est nouveau et c'est en réaction à un mouvement depuis des années.
Merkel a accepté. Jusqu'à maintenant, elle accepte moins. Beaucoup de réfugiés en Allemagne ont été renvoyés ou ont quitté l'Allemagne. Donc, on ne peut pas dire du tout que la politique de Mme Merkel, elle l'est suivie de manière parfaitement cohérente. Non, mais encore une fois, et ce n'est pas notre sujet, mais excusez-moi parce que vous y revenez, sur la question du nombre, ce n'est pas vrai. Si l'on prend sur la durée, si l'on prend les perspectives démographiques, les nombres dont il s'agit sont des nombres considérables à l'échelle d'un pays. Et quand vous parlez, vous dites 1 million, c'est pas grand-chose. Mais 1 million de jeunes hommes, parce qu'en gros c'est 1 million de jeunes hommes, dans un pays si vieillissant, c'est un changement qu'est l'Allemagne, particulièrement vieillissant. C'est une masse considérable. Alors, ensuite, comment on fait? Ça ne suffit pas. Dire ce nom, ça ne suffit pas à juger dans un sens ou dans l'autre. Mais je veux dire, je conteste formellement votre idée que les nombres considérés sont des nombres, finalement...
Gérables.
Minuscules, en tout cas, peu considérable, et qui suscite une réaction absolument disproportionnée à ce nombre. Les peurs ou les angoisses sont toujours un peu disproportionnées, si l'on veut. Mais en réalité, les phénomènes auxquels nous assistons sont des phénomènes collectifs d'une ampleur considérable.
Pierre Manon, qu'est-ce qui vous fait penser que nos sociétés seraient malades d'une application excessive des droits de l'homme ?
D'une application exclusive des droits de l'homme. C'est-à-dire, les droits de l'homme dans l'histoire moderne ont produit beaucoup de biens sociaux, politiques. Après tout, tous nos régimes seraient inconcevables sans les principes des droits de l'homme. Donc, ce n'est pas les droits de l'homme en tant que tels, si je peux dire, qui suscitent mon effort critique. C'est une situation collective où ils sont devenus la seule référence pour orienter la vie humaine. Et on voit bien la difficulté. Par exemple, vous disiez à l'instant, les droits de l'homme sont un absolu. Ben, c'est le problème, c'est que s'il y a
un
plusieurs
universel.
Droits, non, mais un absolu, un universel. Et s'il y a plusieurs droits, les absolus et les universaux, ne peuvent pas entrer dans une délibération. Ils sont ou ils ne sont pas. Ils sont compatibles ou ils sont incompatibles. Et donc là, nous avons perdu l'espace d'une réflexion sur les finalités des institutions. Vous voyez, le foulard, le vêtement des femmes dans la rue. Alors on dit c'est contraire aux valeurs de la République, mais c'est leur droit, c'est le droit individuel, le droit de s'habiller comme on veut. Bon, on voit bien que si l'on parle simplement ainsi, on n'a pas de moyen de formuler la question. Il y a un droit d'un côté, un droit de l'autre. Donc, nous avons besoin d'une réflexion plus élaborée sur les conditions d'une vie collective. Nous avons besoin de références communes, de retrouver des références communes. Je ne vais pas les décider, c'est pas moi qui vais vous les proposer. Mais je soutiens que au lieu de nous confier simplement à un idiome moral qui ne connaît que les droits individuels, nous devons retrouver les voies d'une discussion sur des références communes. Natacha Polony parlait de l'histoire européenne, de la civilisation européenne. Bon, nous avons besoin de redonner voix à ces paramètres collectifs et associants.
Mais ça, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que le problème, c'est que l'individu, les droits de l'individu, sont extrêmement importants dans les conquêtes des libertés des sociétés occidentales, mais en devenant exclusifs, pose un immense problème politique aux nations, aux cités, aux organisations, aux corps politiques. Après, ma question, c'est sur la loi naturelle, parce que vous opposez au droit naturel de l'individu, la question de la loi naturelle des corps ou des communautés nationales, par exemple, ou des civilisations, comme vous dites. Par exemple, mon problème dans ce recours à la nature, c'est si on prend la question concrète du mariage homosexuel. Donc la conquête de nouveaux droits pour des individus qui ont été refusés, enfin cette conquête a été refusée au nom d'une vision dite naturelle de la famille. Dans ce cas-là, dans ce conflit-là, comment vous définissez la loi naturelle ? Est-ce que la loi naturelle, par exemple, c'est de dire une famille, c'est en vue de procréer un homme, une femme ?
Pierre Manon.
La loi naturelle, c'est la nature associative de l'homme dans ses différentes formes d'association. Vous parliez de la nation, la civilisation. Bon, c'est la famille, c'est l'université, c'est l'église ou la société religieuse. Et chaque institution a ses règles, ses paramètres, ce qu'il a défini comme institution, ses finalités, son bien propre. Bon. Alors, vous me donnez un exemple particulier, très significatif. La question est celle de l'institution. Le mouvement de la société avait conduit à ce que l'homosexualité devienne, soit comme on dit, acceptable socialement, et le mouvement de la démocratie avait conduit à ce que des droits civils leur soient ouverts par le Pax, et donc ce tout développement qui me paraissait conforme, je dirais, au mouvement naturel, en tout cas au mouvement spontané de la démocratie. Est-ce que de là, on doit passer à l'extension, l'ouverture du mariage aux couples de personnes du même sexe. C'est là que je dis, on fait un saut qui est contraire, je dirais, à la nature sociale de l'être humain. Le mariage a une définition, en effet,
naturelle, selon
qui
vous.
A une base. Attendez, qu'est-ce qu'on a appelé le mariage depuis que le monde est monde ? Qu'est-ce qu'on a appelé le mariage dans toutes les civilisations, dans tous les siècles ? C'était l'association d'un homme et d'une femme pour produire des enfants, produisant des enfants si la nature ne s'y oppose pas, et commerce entre l'homme et la femme qui est à la source de la différence des générations. Donc le mariage, c'est l'institution qui assure à la fois la production des nouveaux citoyens et la filiation. Bon, c'est une définition naturelle. Bon, telle a été la définition qui a caractérisé le mariage. Donc pourquoi absolument réclamer la désignation de mariage pour des couples. L'égalité, ce sont
des droits.
Couples... Pardon ?
L'égalité des droits.
Mais c'est toute la différence.
On va refaire le débat.
Est-ce que le recours à l'argument de dire c'est naturel ne fiche pas les choses ?
Mais naturel, ça veut dire que l'institution a un sens en contenu. Donc, vous dites l'extension des droits. Quand on étend le droit de vote aux femmes, là, il y a une extension des droits, puisque c'est le même droit. Mais là, on change la définition de l'institution. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous étendez le droit quand vous changez la définition de l'institution.
Natacha.
Oui, je pense que la question est de savoir quelle est la définition qu'on donne du mot institution et quelle est la définition qu'on donne du mot droit. Mais d'ailleurs, ça rejoint totalement les réflexions.
Si vous pensez l'un et l'autre qu'il y a des droits en trop.
Non,
des droits individuels en trop.
Mais c'est pas une question de droits en trop, me semble-t-il. La question est de savoir comment on articule l'individuel et le collectif. Et le collectif, il est régulée, régie par des institutions. Et en effet, la question de la définition des institutions me semble intéressante. Simplement, ma question à moi, elle est sur l'évolution. C'est-à-dire, était-il fatal qu'on en arrive à cet excès de l'individuel primant sur le collectif? Est-ce que c'est contenu intrinsèquement dans le libéralisme, ou est-ce qu'on peut réussir à penser un libéralisme qui articule correctement les deux, sachant que quand les premiers penseurs du libéralisme ont imaginé la société humaine telle qu'ils la voulaient, il leur semblait impensable, justement, que les institutions soient peu à peu détruites comme elles l'ont été toute dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc ils ne pouvaient pas anticiper cela.
Non, certainement. Non, inculper le libéralisme, tout dépend de ce qu'on appelle le libéralisme, quel auteur libéral et quelle interprétation on donne de cet auteur. Non, mais certainement, les auteurs libéraux voulaient corriger, réformer, disons, l'État européen monarchique et catholique. Et ils ont fait appel à une notion assez extensive des droits individuels. Mais évidemment, ils présupposaient l'existence de ces grandes masses politiques et sociales. Donc ils voulaient les réformer profondément, mais ils en présupposaient l'existence.
Une question toute simple. Est-ce qu'il faut mettre un terme à la conquête de nouveaux droits? Droits, par exemple, des couples homosexuels, à l'adoption, droit à avoir un enfant? Est-ce que pour vous, c'est...
Mais attendez... À chaque fois, tout dépend de l'analyse que l'on fait du cas. Moi, je ne raisonne pas ainsi. Je ne dis pas qu'il y a trop de droits, donc supprimons, n'en cherchons pas d'autres. Il peut se trouver que des nouveaux droits soient parfaitement légitimes. Je dis que le problème général, c'est qu'il y a une tendance, en quelque sorte, à effacer la consistance, à laisser s'étioler la consistance des institutions au nom des droits individuels. Et je crois que la vie humaine perd beaucoup de sa densité, de sa richesse et de ses contenus si on laisse se fluidifier les institutions.
Mais Raphaël,
moi là-dessus, je partage largement votre analyse critique de l'individualisme contemporain. La grande question que j'ai, c'est la question, encore une fois, de ce qu'on propose ou ce qu'on oppose à cette logique-là. Et mon problème, c'est que, autant dans votre analyse, vous êtes extrêmement pertinent à mes yeux, je suis désolé, quand vous critiquez cette fiction de l'individu seul, qui est l'homo economicus, qui est pensé comme la nature humaine a fait les hommes tous seuls et séparés, cherchant la maximisation de leur propre intérêt. Donc ça, c'est un idéal libéral, une construction idéologique, cette vision de l'homme seul. Et moi, ce que je pense, c'est que quand on oppose la loi naturelle, qui en fait, en réalité, vise à figer ce qui est déjà là, eh bien, on oppose une autre construction idéologique. Et que finalement, il faut une forme de va-et-vient entre les deux, et que surtout, c'est pas forcément un héritage ce qu'on oppose à l'individu, c'est pas quelque chose qui est nécessairement est naturel, ça peut être un construit politique.
Pierre Manon. Bien sûr, un construit politique, après tout, la République démocratique moderne est une construction politique qui aurait beaucoup surpris Hobbes et Locke. Donc les droits de l'homme ont été compatibles avec des grandes créations associantes et politiques. Donc j'espère que nous avons devant nous encore d'autres créations collectives, mais je pense que si notre élément d'orientation est uniquement ces droits de l'homme, eh bien, nous ne parviendrons pas à de telles productions. Et je crois que aujourd'hui, bon, les institutions collectives ne sont pas écrasantes, ne sont pas autoritaires. Donc, elles ont plutôt besoin d'être protégées. Les nations n'ont pas besoin d'être humiliées. Donc, je crois que il est permis de parler pour les institutions, y compris sous leur forme.
Et de faire taire les paroles, la parole que vous citez, qui dit « j'y ai droit ». J'y ai droit, cette parole qui s'exprime depuis le moment 68, pour reprendre votre analyse.
Mais tout simplement parce que, encore une fois, la question est celle de ce qu'est un droit. Et on le voit dans la question de la procréation, par exemple, qui va se poser dans la relecture des lois de bioéthique. Est-ce qu'il y a un droit à ce que l'État fournisse la possibilité d'avoir un enfant, quelle que soit la position qu'on peut avoir et les liens sociaux qu'on peut avoir? C'est une question.
Pierre Manon.
Je crois qu'il y a un danger à à détacher un droit d'avoir, à le détacher de toute finalité de l'institution. Parce que alors on entre sur un territoire, dans un domaine où nous n'avons plus de règles, et nous dirons, puisque nous pouvons le faire, faisons-le, et puisque nous le désirons, faisons tout pour l'obtenir. Et vous m'accorderez que une société où le désir de chacun est la loi du pays n'est pas une société désirable.
Alors, c'est une manière de voir. On peut dire aussi que ces nouveaux droits sont toujours conquis, qui sont arrachés au terme de lutte, qu'ils sont votés par la représentation nationale, et qu'on n'est pas uniquement dans le désir, dans l'expression du désir.
Non, mais si les principes qui président à la législation sont de plus en plus les désirs interprétés comme droits, il n'y a pas beaucoup de différence.
L'émission se termine, mais ce n'est pas la fin du débat. Merci infiniment, Pierre Manant, d'avoir accepté invitation.
Merci.
La loi naturelle et les droits de l'homme s'est publiée aux presses universitaires de France. Et nous le conseillons chaleureusement, Natacha, Raphaël. Je vous dis à dimanche prochain. Merci à Ophélie Vivier qui a préparé cette émission, à la réalisation Claire Destacant, à la technique Julien Michel. À suivre Zoé Varier et sa journée particulière.
Merci à vous, Ali Badou, et à dimanche prochain sur France Inter à partir de 13h15 pour le grand face-à-face.